France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, Michel Devoret, prix Nobel de physique 2025. Au mois de novembre 1925, le physicien Erwin Schrödinger renouait avec l'une de ses anciennes maîtresses. Juste avant Noël, les deux amants partirent pour Arosa dans les Grisons, où ils demeurèrent jusqu'au 9 janvier 1926. Le 27 décembre, Schrödinger écrivit à l'un de ses amis, Willy Wien, « En ce moment, je me bats avec une nouvelle théorie de l'atome. Dommage que je ne connaisse pas davantage de mathématiques. Mais je suis plutôt optimiste. Si je viens à bout de cette théorie, elle sera très belle. » Fin de citation. Quelques jours plus tard, le physicien confiera à un autre de ses amis, Hermann Weyl, que c'est au terme d'un épisode érotique fulgurant et tardif qu'il a fini par découvrir l'équation qui pilote le comportement des électrons au sein des atomes. La fameuse équation de Schrödinger était née. Sa publication signera l'acte de naissance de la désormais centenaire physique quantique. Pile un siècle plus tard, Michel Devoret et deux de ses collègues, John Clark et John Martinis, se voient décerner ensemble le prix Nobel de physique 2025. Au milieu des années 80, les trois chercheurs ont réalisé des expériences fascinantes. Ils ont démontré que les phénomènes quantiques peuvent se manifester non seulement au niveau d'objets minuscules tels que les atomes ou les particules élémentaires, mais aussi à des échelles quasi macroscopiques. Cela permet de les voir quasiment à l'œil nu, au sein de circuits électroniques sophistiqués. Ils ont d'abord réussi à faire passer des paquets constitués de milliards d'électrons au travers de barrières de potentiel qui seraient infranchissables si la physique que l'on apprend au lycée était juste. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. De quoi s'agit-il? Dans notre monde, les cyclistes doivent pédaler sans cesse sur les pentes qui mènent au sommet d'un col, sans quoi ils ne tardent pas à s'immobiliser. Or, il se trouve que les particules quantiques ne sont nullement soumises à cette épuisante obligation. À leur échelle, elles peuvent traverser l'équivalent d'authentiques montagnes sans qu'il soit nécessaire qu'on leur fournisse de l'énergie. Elles ont en effet une probabilité non nulle d'apparaître, toutes seules comme des grandes, de l'autre côté des montagnes qu'elles rencontrent. Ce qu'ont démontré Michel Devoret et ses coloréas du prix Nobel 2025, c'est que ce phénomène peut faire émerger de façon indirecte des phénomènes quantiques observables à l'échelle macroscopique, ce dont tout le monde n'était pas convaincu dans les années 70. En fait, ils ont conçu des circuits électroniques qui se comportent comme des atomes artificiels, ayant une taille bien plus grande que celle des vrais atomes, de sorte que des propriétés quantiques peuvent se laisser voir, si l'on peut dire, à grande échelle. Je suis bien conscient que ce que je viens de dire n'est pas très clair, d'autant que ma voix est enrouée. Mais ce n'est pas grave, car Michel Devoret est là, devant moi. Bonjour Michel Devoret.
Bonjour.
Vous êtes physicien, professeur émérite de physique à l'université de Yale. Vous êtes professeur également à Santa Barbara, directeur scientifique de Google Quantum à Santa Barbara également. Et surtout, vous êtes lauréat du prix Nobel de physique 2025. Vous avez accepté notre invitation et c'est un grand honneur pour la conversation scientifique. Je crois que j'ai appris avant vous que vous étiez lauréat du prix Nobel à cause du décalage horaire. Vous vivez en Californie.
Oui.
Et vous l'avez appris, je ne sais pas trop comment, mais avec plusieurs heures de retard.
Oui, mon téléphone était en mode silencieux pendant la nuit et j'ai bien vu au réveil qu'il y avait un grand trafic, mais je pensais que c'était une espèce de cyberattaque ou une blague. Il y avait eu des choses qui s'étaient passées 15 jours avant. Et donc j'ai dû téléphoner à ma fille à Paris, qui était 9 heures en avance sur moi, pour avoir la confirmation que ce prix était bien réel.
Mais est-ce que la surprise a été absolue ou est-ce que vous aviez quelques intuitions permettant de...
Non, la surprise était absolue. J'avais même oublié que cette première semaine d'octobre était la semaine des annonces Nobel. J'avais d'autres soucis. Je déménage mon laboratoire de Yale à Santa Barbara et... c'était plutôt les tracas du déménagement que j'avais en tête, plutôt que...
Donc d'un coup, votre existence a changé, j'imagine. pour ce qui est au moins de l'emploi du temps, des sollicitations.
Oui, alors on entre dans un univers parallèle, effectivement, d'une personne publique, et donc effectivement votre vie change tout d'un coup. En tout cas, l'emploi du temps change tout d'un coup, oui.
Vous étiez relativement dans l'ombre. Enfin, moi, je vous connaissais bien, pour tout dire, et je l'avoue pour les auditeurs, j'étais au collège quand vous étiez au lycée de la même ville, à Orsay. Donc, je vous ai connu dans l'adolescence. J'étais en classe avec votre jeune frère. Et à l'époque, il y avait une rumeur qui courait, qui disait qu'un certain Michel Devoret, élève de terminale, avait fabriqué lui-même un ordinateur. Alors, en 1974, je crois.
Alors, 72. C'était 69, 70, 69.
Alors, oui, ça peut coïncider, oui.
70. Alors, oui, alors seul, non. Il y avait toute une équipe avec moi. C'était le club scientifique du lycée d'Orsay, mais j'étais le président du club.
Moi, j'appelais les gars du fer à souder.
Oui. Oui. Il y avait beaucoup de soudures. Il n'y avait pas de circuit intégré et sophistiqué à l'époque. Donc chaque circuit intégré comportait quelques transistors seulement. Donc il y avait beaucoup de soudures, en effet.
Mais qu'est-ce qu'il faisait cet ordinateur? Est-ce qu'il était capable de grandes choses?
Alors, cet ordinateur qui nous plaisait beaucoup, enfin qui était un projet ambitieux, je crois qu'il était à peine plus puissant qu'une calculette de nos jours. Enfin, je pense que la calculette qu'on a sur notre téléphone portable est encore plus puissante que cet ordinateur.
Mais d'où vous est venu, Michel Devoret, cette espèce de tropisme pour la physique passant par la bricole, si j'ose dire?
Ah ben, je pense que...
Parce que votre père était biologiste?
Oui, oui.
C'est pas lui, sans doute, qui vous a transmis le virus de la physique, ben, quoique...
Non, mon père, effectivement, était au départ un médecin qui s'est tourné vers la recherche en biologie, mais il avait fait quand même un certificat de physique, et il avait un grand enthousiasme pour la physique. Et puis, surtout, il avait deux amis proches qui étaient physiciens, parce qu'il avait été, médecin du travail à l'Institut Curie. Donc il avait rencontré pas mal de physiciens, mais il avait deux amis physiciens. Donc, et rencontrer ces physiciens en tant que jeune garçon puis adolescent, ça a contribué à mon intérêt pour la physique. Il y a eu d'autres épisodes, mais ces physiciens étaient très libres d'esprit. Et puis enfant, ce qui m'impressionnait chez les physiciens, c'est qu'ils n'avaient pas de blouse. Ils faisaient de la physique en civil, en quelque sorte. Ce qui renforçait cette idée de liberté. Et puis, il faut bien dire, il y a beaucoup de physiciens à l'époque qui étaient un peu anarchistes. C'était très sympathique.
Et qu'est-ce qui vous gênait dans la blouse?
La blouse, c'est un espèce d'uniforme. Donc, les physiciens, ils n'avaient pas d'uniforme de science.
Bah si, il y avait le pullover et le jean.
Oui, bien sûr. Et puis, les doigts dans les poches, les mains dans les poches. Ça, c'est Feynman qui a vraiment popularisé cette image du physicien décontracté, habillé, effectivement.
Mais Michel Devoret, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu le mot, ou lu, le mot quantique?
Oui, alors, donc, le mot quantique, il vient petit à petit quand on fait des études supérieures. Donc, dans les premières années, les programmes sont faits, à l'époque, on n'entendait pas du tout parler de mécanique quantique. Mais au niveau de la maîtrise, au niveau de DEA, j'ai fait un DEA d'optique quantique, physique
atomique. Oui, mais le mot quantique, vous le connaissiez depuis longtemps.
Ben en fait, c'est un mot assez mystérieux.
Parce que j'ai lu que vous aviez lu les livres de Georges Gamow,
oui.
Les aventures de Monsieur Tompkins,
oui.
Dans lesquels il parle de physique quantique.
Absolument, oui, ça a été ce genre de livre de vulgarisation. Ça, on peut dire que ça a bercé mon adolescence. J'ai lu ce livre de Georges Gamow aux alentours de la seconde. Ça m'a vraiment enthousiasmé, oui.
Et Einstein, quand est-ce que ça a été la première fois que vous avez entendu son nom?
Eh bien, justement, dans les livres de... Georges Gamow a fait plusieurs livres. Il y avait la relativité, il y avait la physique quantique.
Il y avait 30 années qui ébranlèrent le monde.
Oui. Et c'était des livres merveilleux. D'ailleurs, moi, j'en possède plusieurs éditions. Donc Georges Gamow aimait prendre les phénomènes de la physique moderne, donc relativité, mécanique quantique, et les transposer dans le monde réel. Donc quand j'ai pu moi-même faire des expériences de physique quantique, justement à l'échelle macroscopique, j'ai été replongé dans le monde de Gamow.
Ou est-ce que Gamow, il trichait avec la valeur des constantes fondamentales, de sorte que des phénomènes qui nous sont cachés dans la vie ordinaire devenaient dans son esprit visibles, puisqu'il avait dilaté leur amplitude.
Exactement. Et nous, dans notre expérience, qui nous a valu donc cette récompense Nobel, en fait, on a fait l'inverse. Plutôt que de... On ne peut pas évidemment changer les constantes fondamentales, mais on peut changer les conditions d'observation des phénomènes. Et donc, dans son livre, Georges Gamow imagine un monde dans lequel la constante H-bar, la constante fondamentale de Planck qui régit la mécanique quantique, il l'imagine ayant changé et énorme. Ce qui fait que les phénomènes quantiques se voient dans la vie de tous les jours. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la vie de tous les jours, en quelque sorte, et on a changé les conditions pour observer les phénomènes quantiques, tout en gardant, évidemment, puisqu'on ne peut pas le changer, la valeur de la constante H-bar.
Donc votre démarche était anti-gamovienne.
C'est ça.
Alors, vous parliez d'uniforme, moi je vous ai vu en photo avec pourtant un très beau smoking et prononçant un discours à Stockholm il y a quelques jours. Est-ce que vous connaissez l'anagramme du monde quantique, le monde quantique ?
Non.
Ça donne quelques mondanités, comme quoi le monde quantique peut mener à quelques mondanités. En tout cas, vous y êtes parvenu. C'est une anagramme qui a été trouvée par Olivier Garcia. Il y en a une autre. Je voudrais savoir ce qu'elle vous inspire. Le Nobel de Michel Devoret, ça donne le devin et l'écho de l'ombre.
Formidable.
Est-ce que ça vous parle?
Ah oui.
L'écho de l'ombre.
L'écho de l'ombre.
C'est un peu ça, non? Vous avez rendu visibles des choses invisibles qui étaient dans l'ombre.
Absolument, oui, oui, oui.
Et le devin ?
Bon, le devin, évidemment, il faut deviner. Il y a beaucoup de choses qu'on doit deviner quand on réalise ces expériences.
Mais... Alors, on va parler de vos expériences tout à l'heure, mais moi je voulais savoir, est-ce que les résultats que vous avez obtenus, on va le comprendre dans quelques minutes, sont tout à fait spectaculaires, mais est-ce que vous attendiez à ce qu'ils soient tels que vous les avez observés ? Ou est-ce que vous aviez un doute en disant on ne sait pas trop ce qu'on va voir?
Non, on essayait d'être le plus neutre possible. Parce que l'intérêt de cette expérience, c'est que quelle que soit la réponse, elle serait intéressante. Puisqu'on testait la mécanique quantique au niveau des courants et des tensions d'un circuit électrique. Si la mécanique quantique ne fonctionnait pas, on aurait fait une grande découverte majeure. Parce qu'on aurait mis en évidence une limite de la validité de la mécanique quantique, on a plutôt montré que la mécanique quantique fonctionnait toujours à cette échelle.
Mais dans tous les cas, c'était prix Nobel.
Oui, mais on ne fait pas de la recherche pour avoir...
Non, vous étiez trois, hein. Il y avait John Martinis et John Clark avec vous. Vous étiez en phase là-dessus ? Ou est-ce que vous aviez des a priori différents ?
Non, on essayait, puisque en fait, il fallait que cette expérience soit la moins ambiguë possible. En fait, cette expérience, elle faisait suite à des expériences préliminaires qui restaient très ambiguës. Donc notre but, le but qu'on s'était fixé, c'était de rendre l'expérience la plus fiable possible. Donc c'est l'ensemble des expériences de contrôle qui nous permettait de vérifier que ce qu'on observait était bien réel, qui est en fait la partie dont on était le plus fier. Le résultat final, finalement, on était assez neutre. Ce qui nous semblait vraiment important, c'est que, quel que soit le résultat final, on pouvait l'affirmer avec une certaine certitude, une certaine confiance.
J'admire votre placidité.
Ben, je crois que, vous savez...
Parce qu'Alain Aspect dit la même chose. Un aspect qui est venu plusieurs fois à l'émission, et d'ailleurs je crois que vous étiez présent dans la salle dans laquelle il a soutenu sa thèse.
Absolument, oui, oui, j'ai assisté.
Il démontrait que les variables cachées...
Absolument, ça a été, pour moi, ça a été une grande inspiration, cette thèse d'Alain Spaeth. C'était un des rares physiciens qui s'était lancé dans une expérience de test du fondement de la mécanique quantique. À l'époque, il faut se replacer dans ces années-là. C'était absolument tabou de contester les principes de la mécanique quantique. D'ailleurs, je suis très heureux parce que pour la première fois, donc dans cette année anniversaire de la mécanique quantique, j'ai assisté l'été dernier à une conférence dans laquelle certains orateurs en séance plénière ont osé dire que la mécanique quantique était incomplète. Jamais ça se serait produit au moment où moi-même j'apprenais les bases de la mécanique quantique au niveau master.
Mais est-ce que les questions d'interprétation de la mécanique quantique, comme on dit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle nous dit du réel, est-ce qu'elle est complète ou non, vous intéresse?
Ah oui, bien sûr. Sinon, pour moi, faire cette expérience, ce post-doc que j'ai fait à Berkeley dans le laboratoire du professeur John Clark et en association avec John Martinis, qui était un étudiant de thèse à l'époque, pour moi, ça a été la grande chance de ma vie scientifique. J'avais rêvé, justement, de travailler sur le fondement de la mécanique quantique, sur les principes de base. Pendant ma thèse, j'ai appliqué la mécanique quantique
sur l'hydrogène.
Voilà, sur l'hydrogène solide. Sur la
molécule. C'est bizarre ça, non? On voit pas très bien le lien entre l'hydrogène solide et les questions d'interprétation.
Alors justement, de la physique quantique. Au début, quand on est étudiant, on choisit pas trop. On peut pas dire moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler là-dessus. On est très content déjà d'être intégré dans un laboratoire et puis d'être en contact de physiciens professionnels. Moi, j'ai beaucoup appris pendant cette.
Vous étiez au CEA à Saclay.
J'étais au CEA à Saclay, oui.
Avec Anatole Abraham.
Dans le laboratoire d'Anatole Abraham, effectivement, oui. Et donc un excellent laboratoire, un lieu de formation pour la recherche tout à fait exceptionnel.
Alors, dernière question avant qu'on parle de l'expérience proprement dite. J'ai l'impression, et vous allez me corriger si je me trompe, que vous n'avez pas été spécialement séduit par les cours de physique au lycée. En revanche, dans votre activité de président de cette association,
de club scientifique, vous
avez beaucoup bricolé de la physique.
Oui.
Alors qu'est-ce qui n'allait pas dans les cours et qu'est-ce qui vous séduisait dans les activités que vous meniez dans les temps parascolaires?
Ce qui est amusant en physique, enfin moi ce qui m'amuse en tant qu'expérimentateur, c'est qu'on fait des expériences très concrètes en manipulant. C'est tout un monde tout à fait charmant pour moi, le monde expérimental de la physique. Il y a plein de pièces détachées, des ressorts. Vous avez parlé de soudure, j'adore l'odeur de la soudure. On tourne des pièces dans un tour, on utilise la fraiseuse. On fait de l'électronique. Il y a tout un monde tactile, tout à fait merveilleux. Je m'étais essayé d'ailleurs à la biologie, mais... J'ai suivi un certificat de biochimie, mais le monde, disons, des tubes à essai, des produits qu'on utilise dans ces expériences, je crois que j'avais pas vraiment le feu sacré pour ce genre d'environnement, qui est très intellectuel. Le monde expérimental de la physique, si vous avez joué avec un mécano quand vous étiez petit, c'est un peu le prolongement.
Oui, enfin, vous êtes en train de m'expliquer qu'on peut être prix Nobel de physique sans être un intellectuel.
Moi, je veux vous dire, Étienne, le mot intellectuel, je l'aime pas beaucoup, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on fait marcher son intellect, mais je crois qu'on fait marcher toujours son intellect. Un bûcheron, s'il veut être un bon bûcheron efficace et puis pas dépenser d'énergie en coupant des arbres, il y a un côté très intellectuel dans le bûcheron.
Il y a une intelligence manuelle.
Oui,
du corps.
Oui, c'est ça. Moi qui dois couper du bois pour l'hiver, pour la cheminée de notre maison de campagne, je trouve que couper du bois, ça peut être très, très intellectuel.
Alors venons-en, si vous voulez bien, Michel Devoray, à votre expérience. Comment est née cette idée? Comment s'est réalisée l'expérience et qu'a-t-elle démontré, finalement?
Oui. Alors, pour continuer sur ces notions intellectuelles, quand même, parce que je voudrais quand même souligner le fait que ce qui est intéressant dans la physique expérimentale, c'est qu'il y a un côté extrêmement manuel, très très concret, mais ce qui est plaisant, c'est que ce monde concret, manuel, de la réalité, disons sensorielle, est interprétable par des équations. Il y a ce lien avec les mathématiques que j'ai toujours trouvé fascinant. Donc il faut pas qu'un expérimentateur soit coupé de la théorie, il faut qu'il soit capable, disons, de prendre ses observations, de les modéliser, de les comparer aux théories. Donc ça lui demande d'avoir quand même un minimum de compréhension de la théorie. Et je dois dire qu'en France, on est très très bien formé en mathématiques, tellement bien formé que... Bien qu'ayant fait une thèse expérimentateur, quand je suis arrivé aux États-Unis, bon, je me pensais comme un expérimentateur, mais j'ai vite découvert que j'étais en fait un théoricien. Donc, j'ai pas été soumis.
Parce que aux États-Unis, pour construire cette expérience, vous avez mis vraiment vos mains dans l'affaire.
Ah oui, oui, oui. Ça, il fallait être à la fois très concret, très pratique. Et donc, John Martinis adore construire des choses comme moi. Ce qui faisait déjà une base où on s'entendait très bien. Mais aussi, il fallait comprendre la théorie. Parce que l'expérience qu'on a réalisée, elle avait été suggérée par un théoricien très fameux, Tony Leggett, qui d'ailleurs recevra plus tard, après notre expérience, le prix Nobel de physique pour son explication de la superfluidité de l'hélium-3. Et c'est lui, un peu comme John Bell, qui a proposé l'expérience que l'on a réalisée. Donc il y a un certain nombre de physiciens théoriciens qui, pendant la semaine, utilisent la mécanique quantique, mais qui, le week-end,
se disent peut-être que c'est pas la bonne.
C'est pas la bonne, et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette théorie? Donc, ils considèrent la mécanique quantique un peu comme la thermodynamique, c'est-à-dire une théorie émergente, mais qui a un monde dessous, en quelque sorte. Donc l'idée de voir ce qu'il y a en dessous de la mécanique quantique, c'est ce qui motivait Tony Leggett, et lui, il a proposé justement de tester la mécanique quantique à l'échelle des systèmes de la vie de tous les jours, donc qu'on appelle l'échelle macroscopique.
Donc c'est lui qui a eu l'idée du concept de l'expérience ?
C'est lui qui a eu l'idée de... Disons, quand on veut étendre la mécanique quantique, donc ce qu'avait fait Schrödinger avec son chat de Schrödinger, donc qui est un peu... Bon, les physiciens aiment bien inventer des personnages toutes les fois où il y a quelque chose de bizarre dans les concepts de la mécanique quantique. Donc Schrödinger propose le paradoxe du chat de Schrödinger pour montrer que les principes quantiques, quand on les transpose dans la vie ordinaire, contrairement à Gamow qui lui semble accepter que cette mécanique quantique marche toujours, et il suffirait que la constante h bar soit grande pour l'observer. Schrödinger, lui, au contraire, il montre que les principes quantiques conduisent à des absurdités dans la vie de tous les jours avec son chat. Mais Tony Leggett, lui, il est bien conscient que, bon, le chat, c'est une métaphore. Il faut trouver un système qui peut être soumis à l'expérience. Et donc, ils s'orientent vers les circuits électriques parce que il faut des systèmes très légers, et les électrons sont très légers, et ce qui bouge dans un circuit électrique, c'est les électrons. Et là, on a une chance d'observer la mécanique quantique à l'échelle macroscopique.
Alors, l'expérience. Alors. De quoi est-elle faite?
Alors, l'expérience, c'est un peu la transposition. Justement, là, on revient à Gamow. Donc Gamow avait proposé une expérience de pensée. Étienne, je sais que vous aimez bien les expériences de pensée. Donc Gamow, ou Gamow, moi je l'appelle...
Ouais, il était ukrainien, moi je dirais Gamow.
Alors on va l'appeler Gamow. Donc Gamow est un des pères de l'application de la théorie quantique. Dès 1928, il propose que la radioactivité alpha, donc la désintégration par exemple de l'uranium, en un noyau de thorium et une particule alpha, s'explique par l'effet tunnel. Donc c'est un effet qui vient d'être finalement explique, enfin qui apparaît dans la jeune mécanique quantique, il propose cet effet tunnel comme explication de la radioactivité alpha. De quoi s'agit-il ? Bon, il y a la particule alpha qui est enfermée à l'intérieur du noyau et qui va être, à un moment donné, qui va sortir par ce fameux effet tunnel. Et Gamow, pour nous faire comprendre ce qui se passe, il imagine une espèce d'écuelle à chien, ou une petit monticule avec un cratère. Il dit, bon, vous mettez la bille dedans, dans ce cratère, eh bien, quantiquement, la bille ne va pas rester dans le cratère, elle peut traverser la barrière, le cratère. Comme s'il y avait un tunnel. De quoi il s'agit ? Ben, classiquement, la particule ne peut pas sortir de cette cavité concave, parce que il faudrait qu'elle emprunte de l'énergie, ou comme vous l'avez dit, eh bien, c'est le cycliste là qui doit peiner pour. Donc la particule n'a pas d'énergie propre, donc elle ne peut pas franchir la montagne, mais quantiquement, une particule peut emprunter de l'énergie. J'appelle ça la banque de Planck. De combien on peut emprunter de l'énergie pendant combien de temps, c'est fixé par la constante de Planck.
Il faut rembourser quand même.
Il faut rembourser. Alors,
et plus on emprunte, plus il faut rembourser vite.
Voilà. Donc, en fait, si on emprunte pendant une seconde, on a le droit d'emprunter que 10^-35 joules. Hein, donc, une quantité beaucoup d'énergie très, très, très faible. Si, par contre, on est très rapide et qu'on emprunte de l'énergie pendant une nanoseconde, un milliardième de seconde, là, c'est -25 joules. Alors, ça parlera peut-être pas à tous les auditeurs, mais 10^-5 joules, ça n'est pas une quantité d'énergie si faible que ça.
Enfin, grâce à cet emprunt, la particule saute la barrière.
Voilà. Et ce qui est du fait que son énergie, en quelque sorte, cet emprunt d'énergie s'appelle l'effet tunnel, parce que c'est comme si, effectivement, la particule traversait la barrière.
Mais vous l'avez fait non pas avec un électron tout seul, mais avec des milliards d'électrons.
C'est ça. Donc c'est l'état de tout le circuit qui est soumis à ce processus tunnel. Donc c'est, en quelque sorte, nous on a fabriqué une espèce de noyau radioactif géant, plutôt que d'un noyau minuscule qui perd une particule par cet effet tunnel. Nous, c'est tout un circuit électrique qui change d'état.
C'est un état collectif qui change.
C'est un état collectif qui change. En fait, on part d'un état où il est sans tension, où il y a un courant supraconducteur qui circule dans le circuit sans tension, et spontanément, l'état va changer. Et ce qui est bien pratique pour l'expérience, il y a une tension apparaît. Donc notre compteur Geiger, pour nous, c'est un voltmètre. On détecte l'apparition d'une impulsion de tension qui nous dit que cet effet tunnel s'est produit. Et on mesure le temps, un peu comme la durée de vie d'un atome radioactif, on mesure le temps que ce phénomène, en moyenne, le temps que de sortie de...
Mais l'avantage, Michel Devoret, c'est que alors on peut parler d'atomes artificiels, c'est ça, hein ?
C'est ça.
C'est des atomes que vous fabriquez et dont vous réglez les paramètres à votre guise.
C'est ça.
Contrairement aux vrais atomes qui, eux, ont des structures et des niveaux d'énergie qui sont ce qu'ils sont.
Oui, alors dans les atomes, eux, sont soumis à des contraintes terribles, des constantes fondamentales de la nature, hein, qui sont la masse de l'électron et cette fameuse constante de Planck, et de la charge de l'électron. Et donc, ils ont le tableau périodique n'a que 92 atomes qui correspondent aux 92 électrons possibles qu'on peut, de façon stable, faire orbiter autour d'un noyau. Et nous, on a l'avantage, puisque nos atomes sont artificiels, de faire des combinaisons beaucoup plus riches, ou plus exactement, plus adaptées à certaines expériences.
Est-ce qu'on doit dire que vous êtes l'inventeur d'une physique atomique artificielle ?
Voilà, oui, c'est ce qu'on aime bien dire. Nous, nos atomes, on peut y mettre des fils dessus, on peut les mesurer de façon très intime, alors que les atomes naturels ont du mal à s'interfacer avec le rayonnement électromagnétique. Le couplage entre le rayonnement électromagnétique et les atomes naturels est très faible, dû aux constantes fondamentales. Nous, on a beaucoup plus de souplesse dans le réglage de ces paramètres, et donc on peut créer des situations où deux atomes vont interagir très fortement. où on peut mesurer de façon beaucoup plus rapide ce qui se passe à l'intérieur.
Alors, pour qu'on se rende compte, Michel Devray, à la fois de la taille et de la temporalité de votre expérience, dans votre laboratoire, à l'époque, l'expérience occupait quel volume? C'est gros, c'est petit, c'est...
Non, le cœur de l'expérience, c'est une puce électrique, une puce un peu de circuit intégré, très simple, qui comprend une espèce de croix. Donc elle fait quelques millimètres par quelques millimètres, mais elle est refroidie à une température proche du zéro absolu, 20 millièmes de degré Kelvin au-dessus du zéro absolu, par un réfrigérateur qu'on a construit en partie à l'époque. Mais l'aspect technique de l'expérience, c'est le filtrage. Parce que ce circuit électrique va présenter des propriétés quantiques s'il n'est pas soumis, s'il n'est pas noyé dans le bruit. Alors, pour vous donner une échelle du bruit, le simple bruit thermique du circuit à haute température, à la température ambiante, suffit à complètement noyer le phénomène. Donc, il faut filtrer ce bruit. Alors, la difficulté de ce filtrage, c'est qu'il faut quand même laisser une fenêtre en fréquence pour détecter cette fameuse impulsion qui nous dit que le circuit a changé d'état. C'est ça la difficulté de l'expérience. Il faut laisser une petite porte ouverte d'interrogation du circuit, mais en même temps, il faut fermer toutes les autres dans l'espace des fréquences.
Et ça vous a pris combien de temps entre le moment où vous avez commencé à construire cette expérience et le moment où ces résultats se sont manifestés?
Bon, ce genre d'expérience, depuis la conception jusqu'à la publication, ça prend environ 3 ans. Là, la date de la publication, c'est le 7 octobre 1985.
40 ans pile.
Qui, par coïncidence, et 40 ans pile.
C'est le jour où vous avez appris que vous avez
le Nobel. 40 ans pile avant l'annonce.
C'était le 6.
Non, c'était le 7.
Le 7.
7 octobre.
Ouais. 7 octobre.
Mais le projet avait commencé essentiellement 3 ans avant. Enfin, les premières discussions pour la façon dont on allait, introduire de nouvelles expériences de contrôle, le fait qu'on allait mesurer tous les paramètres de la théorie, puisque, en fait, Tony Leggett avait prévu ce qu'on devait observer, exactement ce taux tunnel.
Comment est-ce qu'il a réagi, d'ailleurs, à la publication de votre papier?
Il a toujours soutenu notre travail. Il était un peu déçu quand même par le fait que on trouvait que la mécanique quantique marchait bien. Il nous stimulait toujours pour voir si on avait trouvé des anomalies dans l'expérience, s'il y avait une chance quand même de voir que la mécanique quantique avait un défaut. Mais malheureusement, vu nos barres d'erreur, non, tout collait, tout était compatible avec la mécanique quantique.
Comment est-ce que votre article a été reçu par la communauté? Est-ce qu'il y a eu des sceptiques, par exemple?
Oui, alors ce qui était très intéressant, c'est que oui, il y avait une grande masse de supporters qui trouvaient l'expérience intéressante, voire, je ne vais pas trop me lancer des fleurs, mais élégante, parce que on utilisait, par rapport à nos concurrents, nouvelles techniques, micro-ondes. D'ailleurs, je voudrais citer au passage Daniel Estève, qui avait participé au début dans les expériences réalisées dans le régime classique. Justement, on a inventé d'autres nouvelles méthodes de contrôle qui certifiaient finalement que...
Oui, il y a beaucoup de ruses dans votre expérience.
Donc, il y avait ce public, mais il y avait aussi des sceptiques qui trouvaient que tous les résultats pouvaient s'expliquer par des phénomènes classiques. Et d'ailleurs, ce qui était le plus cité au début, ce n'était pas nos deux articles fondateurs, c'était notre réponse aux critiques qui étaient adressées par une équipe que je ne vais pas citer, mais qui a pendant longtemps été dans le déni de...
Mais ça fait partie du travail de
répondre. Tout à fait. Moi, j'ai été toujours très content de ces critiques. Je pense que ça fait partie de la dynamique scientifique. Et puis, vous savez, dans le fond, ce qui rend cette expérience vraie, c'est qu'elle a été reprise par d'autres physiciens, poussée, et qu'elle sert maintenant de base pour la construction d'un type d'ordinateur quantique. Donc, si ça avait été faux, je pense qu'à un moment donné, en 40 ans...
Ça se serait vu.
Ça se serait vu. Donc,
Mais est-ce qu'il y a eu un... Parce que quand on fait une découverte aussi importante, on s'imagine toujours qu'il y a un moment eureka, c'est-à-dire un moment où le résultat apparaît. Alors soit il nous ressemble à ce qu'on avait anticipé, soit au contraire il nous déçoit. Est-ce que vous avez eu ce genre de choses dans cette expérience?
Le moment quand même de surprise, c'est d'avoir pu, dans cette expérience qui était plutôt axée sur la mesure de l'effet tunnel, la mise en évidence de l'effet tunnel, ça a été le fait de voir les niveaux d'énergie de cet atome artificiel. Parce que finalement, la physique atomique, elle s'est manifestée aux physiciens du 19e siècle par des raies d'absorption, ou des raies d'émission finies. Enfin, classiquement, si on imagine un électron qui tourne autour d'un noyau, un peu comme les planètes autour du Soleil, l'atome ne devrait pas avoir des fréquences d'émission bien précises. Il devrait y avoir une espèce de fond continu. Mais on avait remarqué, dès le milieu du 19e siècle, en faisant la spectroscopie, par exemple, de la lumière du Soleil, qu'il y avait des raies bien discrètes dans le spectre d'émission Et donc, nous, surprise, on arrive à mesurer ces spectres discrets de transition dans cet atome artificiel, ce qui n'avait pas été prévu par Leggett. C'est pas que Leggett ignorait qu'il y aurait des niveaux d'énergie, mais disons, la façon dont les expériences étaient proposées n'était pas axée sur cet aspect des choses. C'est en fait notre expérience de contrôle, de bien vérifier ce qu'on appelle l'hamiltonien du système, qui, un peu pas tout à fait par accident, mais par, une espèce de combinaison de paramètres favorables, nous a fait découvrir cette quantification des niveaux d'énergie. En fait, en appliquant des micro-ondes, ce qu'on faisait pour notre expérience de contrôle, on a vu que pour certaines fréquences, ou si on maintenait la fréquence fixe, si on changeait le courant dans le circuit, ce qui modifiait l'hamiltonien, on arrivait à voir les coïncidences entre les transitions entre niveaux et l'irradiation micro-ondes. Donc il y a un phénomène de résonance qui est celui qui correspond à la quantification des niveaux d'énergie et qu'on a observé, et ce qui était une autre preuve que la mécanique quantique opérait dans ce circuit, une autre preuve indépendante de l'effet tunnel. Donc en quelque sorte, on avait trouvé deux effets quantiques au lieu d'un dans ce circuit électrique.
J'ai une question à vous poser, Michel Devray. Je ne sais pas si elle est personnelle ou pas, mais quand vous pensez à un électron, à ce qu'est un électron, vous voyez quoi?
Ça dépend des jours. ça dépend des questions qu'on me pose. Vous parliez d'interprétation. Pour moi, il y a pas vraiment d'interprétation de la mécanique quantique parce que qu'est-ce qu'on a interprété? Après tout, la mécanique quantique contient un certain nombre de principes, un certain nombre de formules qu'on applique pour prévoir les résultats. Et de ce point de vue-là, elle remplit le contrat, c'est-à-dire que si vous faites une expérience de mécanique quantique, la théorie quantique va vous prédire ce que vous voulez.
Oui, mais si j'étais Einstein, je vous dirais une théorie ne doit pas seulement prédire les résultats des expériences, mais dire ce qui est.
Eh bien, moi, j'ai un point de vue un peu différent. Je ne suis pas de l'école shut up and calculate, c'est-à-dire circuler, il n'y a rien à voir. Non, je pense que c'est important de s'imaginer ce qu'il y a dessous, mais dans le but de créer de nouvelles expériences. Dans le but, c'est-à-dire que on doit se faire une idée du monde qu'il y a derrière les équations, mais il faut que ça produise de nouvelles expériences. Donc moi, j'aime bien parler de formulation. Disons, suivant la façon dont formulent les principes quantiques, et il y a de nombreuses formulations, on va avoir des idées, on va être stimulé pour faire différentes expériences. Et le but de ces expériences, in fine, c'est d'essayer de voir quelles sont les limites de la mécanique quantique. Moi, je fais partie des physiciens qui pensent que la mécanique quantique n'est pas une fin en soi. C'est une théorie émergente, il y a un substratum d'une théorie.
Qu'est-ce qui pourrait révéler ce substratum? C'est la gravité. gravitation qu'il faudrait lui ajouter ?
Par exemple, la gravitation, ça c'est un candidat, puisque on ne sait pas du tout marier mécanique quantique et gravité. Il y a peut-être que la gravité, il y a une théorie intéressante comme ça, qui dit que la gravité, c'est une force entropique qui résulte de, disons, d'un bruit fondamental qui est en dessous de la mécanique quantique. Ça, c'est une des voies possibles, mais il y a d'autres voies possibles. Ça peut être le nombre de particules intriquées. Par exemple, on a très peu de preuves que l'intrication à grande échelle, comprenant de nombreuses particules, est un phénomène robuste que la nature permet. Il y a d'autres limites à explorer.
Mais je posais la question à propos de l'électron, parce que dès qu'on s'en forme une image, il y a toujours une expérience qui vient la contredire.
Oui.
Il y a des expériences qui laissent penser que c'est une onde, d'autres que c'est un corpuscule, or c'est ni l'un ni l'autre. Et oui. Donc c'est comme si la physique quantique était quelque chose de profondément iconoclaste. Dès qu'on se forme une image d'un système quantique, il y a un argument quantique qui vient dire que l'image est fausse.
Alors ce qui se passe, c'est que pour chaque expérience, on peut former une image tout à fait précise. Le problème, c'est que quand on change d'expérience, il faut changer d'image. En fait, c'est assez rigolo parce qu'en fait, on peut circuler de façon continue dans l'espace des expériences, changer un tout petit peu l'image à chaque fois, et puis quand on revient, on a une image complètement différente.
Est-ce qu'on peut faire la synthèse de toutes les images de façon cohérente?
Ah ben, si on pouvait faire la synthèse, on aurait atteint la théorie en dessous. Et ça, c'est un but effectivement de la physique, peut-être pas du 21e siècle, mais du 22e siècle. Peut-être un jour, avec l'amélioration de la théorie, des technologies, on verra des limites. Je dois quand même dire que certains physiciens sont au contraire convaincus que la mécanique quantique est un socle indémontable de toute la physique. Moi, je fais pas partie de cette école, mais.
C'est quand même l'expérience d'Alain Aspin dont on a parlé qui a fermé les portes.
Oui, mais qui reste. L'expérience d'Alain Aspin, a fermé la porte des variables cachées locales. Mais les variables cachées non locales restent tout à fait possibles.
Alors, vous parlez de technologie. Quelles sont justement, Michel Devoret, les applications technologiques de vos travaux? Je sais qu'elles sont nombreuses. On parle beaucoup d'ordinateur quantique comme possible projet tirant parti de ce que vous avez démontré.
Oui, alors donc, nous, quand on a fait cette expérience, on a réalisé cette expérience finalement de physique fondamentale, d'exploration des limites de la mécanique quantique, notre plaisir, ça a été de créer des atomes artificiels, des atomes qui... finalement, sur lesquels on pouvait souder des fils, en quelque sorte, pour parler de façon imagée. Mais ces atomes artificiels, ils se sont révélés très utiles lorsque l'information quantique est apparue au milieu des années 90. Donc, on concevait l'informatique, on ne pensait pas que la mécanique quantique allait jouer un rôle très positif en informatique. En fait, des grands physiciens comme Richard Feynman ou Charlie Bennett étaient plutôt préoccupés de montrer qu'un ordinateur réalisé avec des particules élémentaires fonctionnerait aussi bien qu'un ordinateur normal. En quelque sorte que le principe d'incertitude d'Heisenberg n'allait pas fausser les calculs. C'était ça leur but. Ils n'avaient pas encore compris que, en fait, dans certaines conditions, un ordinateur quantique, c'est-à-dire un ordinateur dans lequel les 0 et les 1 peuvent être en état de superposition, pouvait, pour certains algorithmes, pouvait être supérieur à un ordinateur classique. On pensait que les algorithmes étaient en gros indépendants de l'ordinateur qui l'implémentait. Il n'y aurait pas de principe de physique qui changerait fondamentalement les algorithmes. Mais au milieu des années 90, donc un coup de tonnerre, donc Peter Shor met en évidence un algorithme qui semble beaucoup plus rapide sur un...
L'algorithme de Shor.
Voilà. Et donc, à ce moment-là, les gens se mettent à se dire, mais il nous faudrait des, il faut réaliser des qubits. Et là,
qubit, ça veut dire quantum bit.
Quantum bit, c'est-à-dire un des bits quantiques, c'est-à-dire des
superpositions de 0 et de 1.
Oui, c'est ça, des systèmes dans lesquels on peut à la fois superposer les 1 et les 0, contrairement à ce qui se passe dans l'ordinateur classique. Et là, ces circuits quantiques supraconducteurs, qui sont des atomes artificiels, apparaît immédiatement l'idée de prendre l'état fondamental et le premier état excité comme représentant zéro, le 0 et 1 quantique qu'on peut superposer. Donc, ils entrent, ces circuits quantiques, parmi, en quelque sorte, le développement de l'implémentation de l'ordinateur quantique.
Il faudrait en mettre en relation combien pour avoir un ordinateur quantique? Alors, ça dépasse les capacités classiques.
Alors, ça dépend un peu des projets. Actuellement, donc...
Parce qu'il y a de la bagarre hein, entre oui, les différentes filières.
À Google, Quantum, on a réalisé un algorithme qui s'appelle l'algorithme des échos quantiques, dans lequel, finalement, déjà un ordinateur qui comprend une centaine de qubits peut arriver à faire des calculs qui permettent d'inverser certaines structures et de façon plus performante qu'un ordinateur classique. Enfin, plus performante, c'est-à-dire des milliers de fois plus rapide que l'ordinateur classique correspondant. Mais si on pense à un ordinateur généraliste, adapté à tous les problèmes, là, il faut plutôt être dans le million de qubits.
Celui dont vous venez de parler, c'est celui qu'on appelait Willow ?
Voilà, ça c'est le processeur
dans
Willow.
Dans lequel il y a 105 qubits qui sont intriqués.
Voilà, qui peut aller jusqu'à 105 qubits.
Mais si vous deviez parier sur une des méthodes qui sont en concurrence aujourd'hui, sur laquelle mettriez-vous votre choix ?
Disons, moi je pense que les circuits supraconducteurs sont très bien placés parce que par rapport aux autres implémentations, ils sont en gros 1000 fois plus rapides. Mais les atomes neutres, on peut dire que leur haleine nous souffle dans le dos, nous souffle dans la nuque. On est très très talonnés, oui, par les atomes neutres.
C'est des atomes qui sont piégés sous vide par des lasers.
Voilà.
En utilisant l'effet Doppler et l'effet Sisyphe, oui, découvert par Claude Coentanoji.
Alors ils sont refroidis effectivement et ils ont des avantages et des inconvénients par rapport à l'implémentation des circuits supraconducteurs. Donc ces atomes naturels sont beaucoup plus lents parce que finalement ce qu'il faut faire bouger c'est l'atome lui-même. Donc c'est donc des noyaux qui sont beaucoup plus lourds que les électrons. Nous dans nos circuits il y a que les électrons qui bougent et sont légers donc rapides. Mais par contre, ces atomes, récemment, des techniques ont été développées pour les mettre en relation à de grandes distances. Donc ça veut dire qu'un qubit peut interagir avec beaucoup d'autres qubits à la fois, même des interactions à longue portée. Et ça, pour la correction quantique d'erreurs, c'est cette possibilité est très précieuse. Donc ce qu'on va sûrement voir dans les années qui viennent, c'est quand même une compétition très farouche entre la correction quantique d'erreurs réalisées dans les circuits supraconducteurs et celles réalisées avec les atomes neutres. Je pense qu'à l'échelle d'un million de qubits, tout le monde est un peu... il va y avoir des problèmes à la fois scientifiques et techniques à résoudre dans toutes les implémentations. Et moi, je me risquerais pas à faire des prédictions parce que prédire la technologie, c'est encore plus difficile que de prédire le temps qui fait. Mais il y a quand même ce qu'on peut dire, c'est que ces méthodes ne sont pas il ne faut pas voir, disons, ces méthodes qui sont développées en parallèle comme étant strictement concurrentes. Elles se complètent. Ce qu'on peut trouver en poursuivant une de ces méthodes peut s'appliquer aux autres. Donc, je dirais que c'est plutôt
une compétition, un mélange de collaboration et de compétition.
De collaboration et de compétition, de stimulation, ce qui est très sain.
Mais imaginons qu'une équipe fabrique un ordinateur quantique vraiment performant. Est-ce que vous êtes capable de dire ce que ça va changer tout d'un coup ?
Alors, on connaît à l'avance certaines applications. C'est une véritable ingénierie chimique. Là, ce qu'on appelle l'ingénierie chimique, c'est prendre une réaction qu'on fait à petite échelle dans le laboratoire et faire une usine qui fait des tonnes de ce composé, du produit. La véritable ingénierie chimique, c'est de prendre une fonction et de trouver la molécule qui réalise cette fonction. Et ça demande actuellement des calculs absolument énormes et une mémoire surtout qu'on ne sait pas du tout implémenter, hein, des capacités des mémoires normalement hors de portée de la technologie des ordinateurs classiques. Et donc ça, c'est un but, qui paraît très raisonnable et très certain de l'ordinateur quantique.
Ça veut dire que l'ordinateur quantique va compléter l'arsenal classique,
oui,
sans le remplacer.
C'est à la fois un stimulant. Ce qui est intéressant dans la comparaison entre l'algorithme classique et l'algorithme quantique, c'est que l'algorithme quantique peut faire des progrès à la mécanique, au calcul classique. Et d'ailleurs, un peu comme il y a une compétition entre les différentes approches, disons atomes neutres, atomes artificiels, cette compétition entre l'algorithmique quantique et l'algorithmique classique est assez riche.
Vous voulez dire que les progrès dans un camp rejaillissent sur de possibles progrès dans l'autre camp?
Oui. J'aime bien citer Charlie Bennett, un des découvreurs de la cryptographie quantique, qui dit que l'information quantique est à l'information classique ce que les nombres complexes sont nombres réels. C'est-à-dire que, comme vous savez peut-être, avec les nombres complexes, on ne trouve pas de nouvelles intégrales qu'on n'aurait pas pu calculer avec des nombres réels. Mais ça donne une portée de vue, ça donne une compréhension des mathématiques de l'intégration qui est très précieuse pour de nombreux problèmes. Donc c'est un peu le rôle que peut jouer l'information quantique, c'est-à-dire de nous donner une largeur de vue sur l'algorithmique. Il faut bien même comprendre que l'algorithmique, on est au niveau de l'algorithmique un peu comme les Romains étaient au niveau des nombres, c'est-à-dire essayer de faire une division en utilisant le système des chiffres romains, ça va être très très difficile.
Même l'addition, c'est pas simple.
Donc voilà, tous les progrès dans la compréhension fondamentale de l'algorithmique seront les bienvenus à mon avis, et donc l'information quantique est intéressante de ce point de vue-là. Elle donne une profondeur de vue sur cette question de qu'est-ce qu'on fait quand on écrit un algorithme.
Michel Devoré, j'avais une autre question d'une autre nature. Vous avez passé 20 ans au CEVA à développer un laboratoire avez fabriqué ces bits quantiques, le contronium, je crois que c'est le nom qu'on lui donne.
Ça c'est un des atomes artificiels.
Ouais. Donc 20 ans en France au CEVA, 20 ans aux États-Unis.
Oui, en fait, plus de, même. J'ai fait de la recherche en France pendant 25 ans et aussi pendant 25 ans aux États-Unis. Là, j'arrive à un point de bascule.
Et comment est-ce que vous comparez les deux systèmes?
Alors, les deux systèmes sont très différents. J'estime avoir eu beaucoup de chance de pouvoir échantillonner ces deux systèmes qui ont chacun des avantages et des inconvénients. Pour faire court, le système français permet une très grande profondeur dans la recherche. On peut creuser un sujet et obtenir un niveau technique incomparable, bien supérieur au niveau à celui qu'on peut atteindre dans le système américain. Donc ce groupe Quantronic que nous avons fondé avec Daniel Esteve et Christian Urbina, quand on voit par exemple leurs résultats actuels je vais citer Emmanuel Flurin et Patrice Berthet, quand on voit ce que le laboratoire a accompli dans la mesure d'un spin nucléaire individuel, je pense que ce genre de découverte serait très très difficile dans le système américain. Par contre, dans le système américain, on a une capacité d'explorer beaucoup plus large. En gros, dans le système français, on peut, comme c'est un système où il y a beaucoup de permanents, on peut creuser, on peut avoir une perfection technique en profondeur. Aux États-Unis, comme la recherche se fait principalement avec des étudiants et quelques post-docs, le niveau technique est nécessairement plus faible. Et par contre, on peut explorer plus large. Un étudiant qui se présente, il veut pas tellement perfectionner une expérience qui existe déjà. Il veut faire une nouvelle expérience. Donc on doit inventer sans cesse de nouvelles directions. Ce qui est aussi très intéressant.
Donc vous avez fabriqué cette sorte d'analyse en comparant les deux systèmes. Mais si vous deviez en choisir un pour le reste de votre carrière, ça serait lequel ?
Là, à mon âge, on commence à devenir un peu statique. Hein. Mais le changement que j'ai fait, c'est pas un nouveau changement entre le système français et le système américain. C'est plutôt le changement de la recherche fondamentale à l'université dans la recherche appliquée dans une industrie. Puisque donc je participe à la construction d'un ordinateur quantique à Google Quantum en Californie. C'est plutôt là maintenant. Je pense que j'ai eu mon compte d'exploration académique. Maintenant, je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde industriel. Ce qui est assez normal puisque finalement, c'est une grande joie, une grande fierté de voir votre travail, disons, de recherche fondamentale se traduire dans la construction d'une machine, finalement basée sur ces principes.
Donc, votre choix est clair. Quels sont vos projets ? Donc, il y a cette machine que vous espérez construire, un ordinateur quantique chez Google. Quelle est l'échéance que vous donnez pour obtenir les premiers résultats ?
Quelle échéance ? Je pense que ça va être très graduel. Hein.
Parce qu'il y a souvent des effets d'annonce, comme si c'était imminent, et puis à chaque fois, ça recule.
Je sais pas si ça recule. Moi, je vois plutôt un progrès constant, mais c'est vrai qu'il y a certaines annonces qui peuvent être un peu trop optimistes, oui. À Google, on essaye d'être très prudent sur ce genre de communication. Il faut être réaliste. Même dans le milieu académique, on entend des fois des annonces tonitruantes. Vous vous souvenez peut-être de la fusion froide, de la mémoire de l'eau,
oui,
des neutrinos bien. Qui vont plus vite que la lumière, etc. Ouais. Donc, des fois, il y a des gens qui sont un peu trop optimistes, qui vérifient peut-être
une
pas.
Une dernière question, Michel Devoré. Comment est-ce que vous interprétez le fait que là, depuis quelques années, il y a beaucoup de prix Nobel français en physique, Alain Aspect, Anne Lhuillier, Pierre Agostini, vous-même cette année?
Je pense que la formation française est excellente. Je pense que le système français d'éducation des jeunes physiciens, au niveau des classes préparatoires, de l'université, des masters, toute la préparation, il faut dire que on est quand même dans un pays où les mathématiques jouent un rôle de sélection absolument farouche. Peut-être on pourrait même dire que la France est aux mathématiques ce que l'Allemagne de l'Est était à la nage féminine de compétition. Et donc, les étudiants partent avec une très très bonne formation, ce qui leur sert évidemment dans la recherche.
Donc on attend pour bientôt le prochain prix Nobel français. Merci Michel Devoré, c'est un honneur et une joie de vous recevoir à la Conversation scientifique. C'était donc la Conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la réalisation et à la mise en onde de Julien Moulet.